Collège public CADES, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, Paul était joyeux.
Ok, on va commencer cette première heure de cours. Cours intitulé « Les secrets de la joie de Paul ». Et je vous invite à prendre connaissance du plan général sur le verso de la première page. 8 leçons et un super programme. Paul était joyeux. Vivre pour Dieu, mourir à soi. Avoir les sentiments de Christ. Leçon numéro 4, mettre Christ au-dessus de tout. Connaître et revêtir Christ. Demeurer ferme en Dieu. Paix et joie continuellement. Et leçon 8, mettre en pratique la parole. Un beau programme. Alors, c'est génial d'aborder ce cours parce qu'effectivement, la Bible, et on l'a vu sur le cours sur l'apôtre Jean, une des raisons pour laquelle la Bible a été écrite, c'est pour nous donner la joie. Et comme ça a été dit dans ce verset, effectivement, ce mot de secret de la joie de Paul, ça a pour but une révélation. Ça, c'est pas un secret pour cacher, c'est un secret pour révéler et pour découvrir des choses pour ceux que ça intéresse. Alors, si on regarde les vitraux de certaines églises, honnêtement, et qu'on regarde aux disciples, aux apôtres, à Paul, ils font la tête, hein. Ils sont austères, ils sont tristes, hein. En plus, ils sont pas, comment dire, souvent sur ces vitraux d'ailleurs, ils sont pas jeunes. Ils sont autour de Jésus, mais ils devraient être plus jeunes que, hein, on leur fait des grosses barbes. Mais c'est vrai, ils ont l'air tristes sur les vitraux d'église, alors que quand on regarde comment ils étaient, c'était tout sauf ça. Et ça, c'est important de le dire. Et l'objectif de cette session, c'est de voir Paul dans sa vie, donc notamment dans les Actes, dans l'épître qu'il a écrite aux Philippiens, et de voir qu'il était dans la joie tout le temps. Et cette joie ne dépendait pas des circonstances. Et un des objectifs du cours, c'est de se dire comment il a fait. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a fait pour rester joyeux dans les aspects négatifs du ministère? Mais sans oublier qu'il y a eu des tas d'aspects positifs. Et puisqu'on va aborder l'épître aux Philippiens, puisqu'on va aborder ce que Paul dit à cette communauté, c'est d'abord intéressant de voir le contexte. Donc, dans cette première partie, on va regarder le voyage missionnaire de Paul et Silas à Philippe. On va juste mettre en contexte pour mettre en lumière, en perspective, finalement, comment il avance dans ce chemin-là. Alors, on voit en acte 15... À partir de acte 15, vous pouvez suivre dans vos Bibles, et si vous avez des cartes aussi, vous pouvez le faire après coup, le voyage missionnaire de Paul. Il choisit Silas comme coéquipier, et ils partent. Et je lis acte 15, les versets 40, jusqu'au chapitre 16, verset 8. Acte 15, 40, jusqu'à 16, verset 8. Paul fit choix de Silas, donc il choisit Silas, et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, donc c'est là qu'il rencontre Timothée. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc Paul est dans son voyage missionnaire, et à la fois il apporte un soin pastoral pour les communautés existantes, mais en plus il en ouvre d'autres. Parce que ce qu'il faut savoir sur ce voyage missionnaire, c'est qu'à la base, ce n'était pas un voyage missionnaire. À la base, il partait juste pour apporter ce soin pastoral. Et c'est après coup, finalement, dans les circonstances, qu'il choisit d'aller ouvrir d'autres communautés. Mais ce n'est pas le plan initial, mais c'est pour dire que, voilà, pour lui, ce voyage missionnaire, c'est aussi un voyage complètement et profondément pastoral. Si on regarde au verset 6, on continue. « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. » C'est bien, ça rime. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Vous avez remarqué au verset 6, empêchés par le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 7, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Mais décidément, ça bloque. Donc on voit qu'il fait une boucle, Paul, hein, il va vers l'ouest. Et ce n'était pas le plan initial ce qui va se passer. On sait qu'il ira voir les Galates plus tard puisqu'il ouvrira une communauté là-bas. Mais ce n'est pas anodin. Ici, il y a deux expressions. Il y a le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus qui va le réorienter. Ce qui veut dire plusieurs choses pour nous, déjà, juste en passant, je fais une digression, mais souvent, parfois, je ne sais pas, ça dépend, certaines personnes diraient « je ne bouge pas tant que Dieu ne me montre pas ». Paul, on a l'impression que c'est une fois qu'il est en mouvement, que Dieu va le réorienter. Il y avait un pasteur qui disait « si tu veux voir les panneaux sur la route, il faut déjà avancer sur la route. Et puis quand tu auras besoin de tourner, tu auras l'indication ». Et on sent que Paul, c'est comme ça que ça se passe. Alors quand on voit sa stratégie pour implanter des églises, on dirait qu'il n'en a pas vraiment. Ou alors, il y a une stratégie, on va dire naturelle, c'est qu'il va dans les grands centres, dans les grandes villes, parce qu'il sait qu'il y a du passage, et que si je touche une ville, alors ensuite les campagnes seront touchées. Mais Dieu le réorientait régulièrement dans sa démarche. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mince, c'est ce que j'ai fait une erreur. Mais pour lui, c'est OK, il n'y a pas de souci. Je vais à droite, si le Seigneur me dit finalement c'est à gauche, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que j'ai raté quelque chose, c'est sa démarche. Le texte ne dit pas qu'il fait mal en faisant ça, c'est sa marche chrétienne. Donc voilà, là où certains pourraient attendre un signe du ciel, Paul il se dit j'y vais, et on verra bien les panneaux qu'il y a sur la route. Et puis en fait, juste un mot sur ça, quand Paul va implanter les églises, il fait comme les gens à son époque, quand il y avait une info à rapporter, il allait dans les grands centres, dans les grandes villes. Je prends un exemple, c'était Nestorius qui était un hérétique, et qui lui, il voulait répandre son hérésie partout. Il est allé où ? Il est allé sur le port d'Alexandrie, parce que là, il y avait des bateaux, il y avait plein de passages. Il a composé une chanson pour retenir sa doctrine, et puis c'est répandu comme une traînée de poudre. Mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, on allait dans les grands centres pour que ça se répande. Paul fait la même chose, sauf que de temps en temps, Dieu dit « non, c'est pas cette grande ville, c'est ce petit coin-là ». Voilà, ça dépendra de ce que Dieu a en tête. Mais tout ça pour dire que Paul fait preuve de bon sens, il y va quand même, et si Dieu le réoriente, il va à ce moment-là l'écouter et suivre ça. Mais ce n'est pas un problème pour lui. Ça, c'est intéressant de le voir. Si on regarde un peu plus loin au verset 9, toujours en acte 16, on voit que Paul part en Macédoine. Et on lit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Donc, il est en mouvement et hop, il y a une vision pendant qu'il dort, avant de reprendre la route. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement à la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul est dans un mouvement, il a une vision. Ce n'était pas le plan initial pour lui, il allait autre part. Mais il n'impose pas ça à ses amis. Le texte dit « concluant ». Il a conclu quelque chose de cette vision. Mais ça ne s'est pas imposé à lui. La réponse est venue après une réflexion, après avoir réfléchi ensemble. Parce qu'il faut se mettre à leur place. Si on se dit qu'on va tous demain dans une ville et que le lendemain matin, au réveil, je vous dis en fait, on va ailleurs, on va dire mais c'était pas prévu, est-ce que c'est sérieux de faire ça? Est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Voilà, c'est parce qu'il y a toute une logistique aussi derrière. C'est pour ça qu'ils vont se rassembler, ils reçoivent quelque chose ensemble, ils réfléchissent et concluent que c'est bien de Dieu. Donc, la prophétie est un exercice de groupe. Paul le dit dans les Épîtres et il le dit également là. Et on voit au verset 12, « De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. » Donc, pour situer, il prend un bateau de la Turquie à la Grèce et la première ville qu'il rencontre, c'est Philippe. La vision ne dit pas qu'il doit s'arrêter forcément à Philippe, c'est la Macédoine, mais il rentre dans cette ville. À partir du verset 13, on voit quelque chose qui se passe à Philippe quand il arrive. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et à l'écouter. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc, Lydie fait partie des premiers convertis de Philippe. C'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Et tout de suite, c'est formidable de voir l'ouverture, l'hospitalité. Parce que pour eux, ils reviennent de loin, déjà. Et puis surtout, ils se demandent, voilà, ils ont une vision. Et quelque part, ça les conforte. Il y a quelqu'un qui se convertit et qui nous ouvre grand ses portes. D'ailleurs, elle le soutiendra par sa maison, mais aussi de façon financière. Alors, c'est vrai que d'autres églises ont aidé de façon plus périodique ou ponctuelle Paul, mais Paul dira toujours des Philippiens que c'est un soutien constant. Donc c'est fondateur dans son ministère. Si on va plus loin au verset 16, on lit, et là on s'approche d'une action un peu dramatique, mais à la fois glorieuse. Verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, » donc il continue en chemin, hein, « une servante qui avait un esprit de Python, » c'est-à-dire un esprit de divination, un esprit qui permet de voir de par la voyance, on dirait aujourd'hui, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, c'est-à-dire qu'elle vendait ses services, hein, moyennant argent, vint au-devant de nous. Verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, donc elle ne faisait pas que parler, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Là, on se dit, bravo les mecs, parce que plusieurs jours, quelqu'un qui crie derrière toi, voilà, ils avaient quand même de la patience. Je crois que c'est Paul qui dit que la première caractéristique et la majeure caractéristique de l'apostolat, de l'apôtre, c'est la patience. Pour le coup, je ne sais pas si on aurait supporté que quelqu'un crie derrière nous cela. Alors, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est ça qui est troublant. C'est vrai ce qu'elle dit. C'est la voie du salut. Ils sont bien envoyés de Dieu. Mais on sent que derrière ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Et on sent que l'esprit qu'il y a derrière n'est pas bon. C'est comme si, je ne sais pas, vous annonciez une soirée d'évangélisation quelque part et qu'il y ait le sorcier ou un sataniste dans le coin qui dise à tout le monde « Mais allez-y, c'est génial !» On sait que ce n'est pas la bonne personne pour dire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le texte de préciser plusieurs jours. Sauf que, évidemment, Paul est humain. Paul, fatigué, se retourna. On sent le fatigué, c'est « Allez, on ne peut pas continuer comme ça. » Et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Elle ne peut plus annoncer quoi que ce soit, c'est ce qu'on voit. Elle est complètement bloquée. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas juste un esprit qui part. C'est un fonds de commerce qui s'arrête. C'est une entreprise qui s'arrête. Il n'y a plus de profit. Et en termes de profit, c'est énorme la perte qu'il y a, parce que les voyants étaient payés. Alors, Paul aura toujours cet effet quand il va voir des villes dans certaines régions où il y a des statues, des reliques, où finalement il va apporter une autre perspective spirituelle et finalement il faut tout jeter. Et donc les marchands lui tombent toujours dessus. C'est peut-être pour ça qu'il a hésité à chasser le démon, parce qu'il s'est dit ça va se retourner contre nous peut-être cette histoire. Il le fait et c'est effectivement ce qui se passe. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, donc elle est vraiment délivrée à 100%, il n'y a plus de divination, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Regardez bien les verbes dans ce passage. Donc ils s'en saisissent, ils les traînent. Ce n'est pas des verbes, voilà, c'est pas juste, s'il vous plaît, vous venez avec nous. Ils les présentèrent aux prêteurs, donc c'est-à-dire les huissiers, en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. » Alors que Paul est romain. On comprend bien que c'est que la moitié de la vérité ici. Oui, ces coutumes sont différentes, mais non, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est le porte-monnaie. Qu'on se le dise, l'enjeu, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent à se faire, mais c'est pas le problème d'amener quelque chose de nouveau. C'est comme à Éphèse, il y avait le commerce autour de Diane, la divinité, et les vendeurs disent, mais ce lien entre Éphèse et Diane, il est indissociable, on ne peut pas l'enlever. Ben si, c'est juste que c'est une question d'argent. Ça n'a rien de spirituel. Regardez la suite. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Alors déjà la foule. Hein. Une foule, c'est voilà, qui se soulève contre vous, vous perdez le contrôle. Hein. On perd le contrôle. Ayant fait arracher leurs vêtements, donc vous n'avez plus de vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Et après qu'on les ait chargés de coups, donc regardez les verbes, hein, ils les jetèrent en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. C'est-à-dire, c'est eux la priorité, ils ne doivent pas sortir. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors, comme j'ai dit déjà, une foule en colère, c'est incontrôlable. On peut voir, je sais pas, dans les stades, des hooligans. Voilà. Quand il y a un mouvement de foule, en général, c'est soit toute la foule se disperse, soit il n'y a rien à faire. Quelque part, il faut attendre que ça se passe. Alors, les autorités prennent le dessus pour pas que ce soit incontrôlable. Mais pour satisfaire la foule, quand même, la sanction est sévère. Donc, ils sont mis dans l'endroit le plus humide, le plus froid de la prison, manifestement. avec au pied ce rectangle de bois, vous savez, avec les trous pour pas qu'on puisse bouger. Donc pas de repos, avec probablement le dos en sang après avoir été fouetté, battu. C'est quand même quelque chose de très violent. C'est violent et on a l'impression que c'est rapide. Hein. Hop, tout se passe d'un coup. Après l'esprit de Python, il se passe tout ça. C'est un déchaînement qui se passe contre eux. Et Paul aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, tu nous appelles là. On a suivi ta vision. On a été bien accueillis. On chasse un esprit. Et puis là, pouf ! Voilà tout ce qui se passe. Et puis, on pouvait pas appeler son avocat à l'époque. Ça se passait pas comme ça. Il faisait ce qu'il voulait. Hein, c'était au niveau des lois, c'était plus simple qu'aujourd'hui, probablement. Alors je mets la perspective. Vous voyez, tout ça, tout ce qui se passe, hein, ils sont guidés par Dieu, redirigés, ils arrivent à Philippe, et hop, ils finissent en prison. D'où le thème, hein, cette première étude s'appelle Paul était joyeux. Donc, c'est pour ça que je mets en perspective ces termes, le contexte. Acte 16, je continue au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. On se dit, mais ce sont des extraterrestres. Qu'est-ce qu'ils font ? Avec tout ce qui s'est passé, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est très beau comme image. Les prisonniers se disent, tiens, les nouveaux qui arrivent, en général, ils doivent pleurer, ils doivent avoir des moments de crise. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de chanter. On est roué de coups, emprisonné, détesté, et ils font un truc qui n'a pas de sens, en fait. Et je crois qu'un des buts de ce qui s'est passé pour eux, arracher les vêtements, c'est quelque part enlever leur humanité. C'est les briser dans leur dynamique. Hein ? C'est de dire, finalement, vous n'êtes pas au bon endroit. Et ici, on touche à un aspect fondamental du cours, et on verra 20 points, justement, sur la joie de Paul. Là, on regarde encore le contexte. C'est comment ils font ça ? Est-ce qu'ils viennent de la planète Mars ? Et sinon, si on répond non, qu'est-ce qui se passe ? Comment ils font ? Et on voit que, justement, dans les actes et dans cette épître, il y a beaucoup d'indications très intéressantes. Le texte dit « les prisonniers les entendaient ». Alors, en grec, c'est encore plus fort, c'est « ils surécoutaient ». C'est-à-dire, c'est pas juste qu'ils entendaient du bruit, c'est qu'ils tendaient l'oreille, ils se disaient « mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. On sait j'imagine qu'il y a dû y avoir du sang, de la sueur, des cris, et hop, voilà. On se met à chanter dans ce silence typique relatif aux prisons. Ici, quelque part, les prisonniers tendent l'oreille. Hein, qu'est-ce qui se passe ? On surécoute. Hein, c'est vraiment en grec, c'est forcé. On veut entendre. C'est pas normal ce qui se passe. C'est les nouveaux en plus, c'est les plus faibles dans la prison normalement. Puis eux, ils font la fête, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire la fête ici ? Il y a peut-être d'autres endroits. Il y a peut-être d'autres endroits pour faire ça. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh ! Là, on se dit, ok, ça continue dans l'étrange, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe dans cette prison ? Et puis, normalement, quand il y a un tremblement de terre, les murs s'effondrent. Normalement, ça déstabilise la structure. Là, c'est pas le cas. Ce qui se passe, et on voit que c'est surnaturel, c'est qu'il y a juste les portes qui s'ouvrent. À la limite, on aurait pu croire l'inverse. Et c'est peut-être aussi une image spirituelle pour la délivrance. Dieu ne fait pas effondrer les maisons, mais il ouvre des portes et il enferme d'autres pour libérer des liens. On continue dans l'histoire, verset 27. Le geôlier se réveilla. Qu'est-ce qui se passe ? Il se dit, c'est quoi cette histoire ? Toutes les portes sont ouvertes, tremblement de terre, et ça chante dans la prison alors qu'on les a battues. Qu'est-ce qui se passe ? Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alors, c'est étonnant, cette réaction du geôlier, mais c'était comme ça à l'époque. Hein. C'était la motivation romaine. S'il s'échappe, tu meurs, en fait. Voilà, c'est ta motivation. Voilà, c'est ça. S'ils partent, toi, tu n'as plus de raison d'être. Et donc, lui, c'est ce qui se passe. Hein. Et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, c'est-à-dire, ils sont partis. Pour lui, ils sont partis. S'ils se réveillent et que tout est ouvert, normalement, ils partent. Mais non. Il allait se tuer. Et là, Paul va crier, il va dire quelque chose, il va crier d'une voix forte. Et on sent que dans ses propos, il sait ce qui est en train de se passer. Il est dans sa cellule, mais probablement que Dieu est en train de lui parler de quelque chose. Et on voit au verset 28, Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » T'inquiète pas, personne n'est sorti. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors ça, c'est vraiment le miracle. Ça, la terre tremble, les murs ne s'effondrent pas, les portes s'ouvrent, mais les prisonniers restent. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Et Paul voit, c'est ça, tout à fait. Il est dans sa cellule, il n'est pas sorti pour voir ce qui se passe, il ne va pas voir le geôlier qui va se tuer, non. Il est dans sa cellule, il est dans le noir, et il y a tout ça qui se passe. Rappelez-vous, les prisonniers ont surécouté Paul, et c'est pour ça que je pense, quand les portes sont ouvertes, ils se sont dit non, on ne va pas sortir, parce que là, ce qui se passe, on a envie d'en savoir plus. On pourrait sortir, mais non, tout le monde reste, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Quand on est en prison, j'imagine pour ces prisonniers de plus longue date, ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver au nouveau? Là, ils prient, ils chantent, il y a tout ce miracle. Est-ce qu'il n'y a pas un message pour moi? Je suis témoin d'un truc tellement fou que voilà. Puis Paul et Silas faisaient des prières et ils louaient Dieu. Alors le geôlier, verset 29, ayant demandé de la lumière, parce qu'effectivement, ils sont dans le noir, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Alors j'imagine que le geôlier, il est passé devant toutes les cellules, avec toutes les portes ouvertes, il a dû voir qu'il y a tout le monde, effectivement. Et il a dû se dire, mais effectivement, il tremble. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi je vais tomber? Je vais vers cette cellule, sur quoi je vais tomber, quoi? Pour lui, c'est pas logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, pour le coup, que c'est Paul et Silas qui dirigent la prison. Ça y est, ce sont eux les directeurs, maintenant. Allez, on va t'expliquer. Personne sort, on ouvre les portes, on dirige la chose. Ça nous fait penser à Joseph aussi, qui, dans sa condition, dirigeait aussi la prison. Voilà. C'est eux les patrons de la prison. Allez, viens, on va t'expliquer. Et on se rappelle que le geôlier allait se tuer. Donc dans sa tête, c'était le désespoir complet. C'était, je vais me suicider. Je vais garder mon honneur, c'est moi qui vais moi-même me tuer. Verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, donc il les appelle Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà. Ça, c'est une question. Alors c'est vrai que n'importe quel prisonnier pourrait sortir et puis il en serait fini de sa vie. Mais je crois que voilà, il parle pas d'abord de la vie éternelle. Hein, si on veut être très concret, il parle aussi de sa vie. Il dit, mais là, je vais mourir. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, j'ai pas le temps de fermer toutes les portes. Je suis fichu. Qu'est-ce que répondent Paul et Silas? Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est extraordinaire ce qui se passe là. À mon avis, il est revenu de loin. Il dort, il se réveille, tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent, et puis voilà tout ce qui se passe. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes, et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous ont fait sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Paul. Les licteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Ce qui est très intéressant ici, en fait, c'est que Paul est romain. Donc effectivement, on ne peut pas lui faire ça. Pour un romain, ce n'est pas le même régime que pour un étranger. Donc c'est illégal ce qu'ils ont fait. Ce que vous avez fait, c'est illégal, donc venez vous expliquer. Mais on peut dire, pourquoi il ne fait pas avant? Il aurait pu le dire dès le début. Eh, les gars, je suis romain, on va éviter le. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le texte ne dit pas tout ça. En fait, le texte ne répond pas à cette question. Mais je crois que Paul est assez vif pour. Peut-être qu'il n'avait pas le temps, peut-être qu'il l'avait, peut-être que voilà. Et on ne sait pas pourquoi le texte ne le dit pas. Mais je crois que ça nous fait réfléchir sur la notion d'épreuve. C'est-à-dire que Paul avait le sentiment qu'il se passait quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est fait pour dire, on veut pas d'épreuve. Il y a le déni de l'épreuve, en fait. Je refuse d'être éprouvé. C'est vrai qu'il y a cette mentalité-là. S'il y a une épreuve, c'est qu'il y a un problème. Et manifestement, pour Paul et Silas, non. Ils ont une autre compréhension de l'épreuve ou de cette forme dans la souffrance. Et là, je distingue bien, théologiquement parlant, la souffrance liée à la maladie qui n'est pas de Dieu, hein, et l'épreuve liée à la persécution. Hein. Ce sont deux choses distinctes qu'il ne faut pas mélanger. Mais voilà, c'est une interrogation passant. En tout cas, il y a une compréhension de la chose qui est intéressante ici. Donc voilà le contexte de Paul aux Philippiens. Vous voyez l'idée? Voilà tout ce qui s'est passé, toute cette marche. Et pourquoi et comment Paul, avec ses amis, ont agi de la sorte? Comment c'est possible d'être battu, fatigué, dans le froid, dans la solitude? C'est pas juste en plus, hein. C'est vraiment pas juste. Et il chante, il prie, il loue Dieu. Et par rapport à ça, on va continuer à regarder toute cette histoire et on va voir pendant l'ensemble de ce cours 20 secrets pour lesquels Paul pouvait trouver la joie en toutes circonstances. Secret numéro 1, c'est le grand 2. Acte 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » On l'a vu tout à l'heure. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le secret numéro 1, si Paul pouvait trouver la joie en toutes circonstances, c'est parce qu'il avait la certitude de répondre à l'appel de Dieu. Voilà. Paul était sûr de répondre à l'appel de Dieu. À partir de ce moment-là, tout ce qui se passe après lui permet de rester dans la joie. Parce qu'il sait que Dieu veut son bien. Ça, c'est important. C'est vraiment important de l'avoir en tête parce que, effectivement, quand on n'est pas sûr et quand on est dans et on le sent quand on est dans des périodes où on ne sait pas justement quelle serait la volonté de Dieu pour telle ou telle chose, on est assez perturbé. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'il faut faire, là, Seigneur? Mais Paul avait la certitude. Il a reçu une vision. Pourtant, à la base, il avait déjà une dynamique. Il allait quelque part. Mais il préfère avoir une vision et être sûr que c'est de Dieu plutôt que de continuer sur son chemin. Je pense que c'est une bonne leçon pour nous. Est-ce qu'on est sûr de l'appel de Dieu sur nos vies? Est-ce qu'on est sûr de continuer là où Dieu nous appelle? Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu, il a un désir dans son cœur, c'est « je vais te dire c'est quoi ma volonté ». Je vais te dire quelle est ma volonté pour toi. Il a envie de nous le dire. Hein, souvent, on se dit, mais tu te caches. On joue à cache-cache, là. J'ai pas envie de te courir après. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire un effort pour comprendre, alors que Dieu veut nous dire sa volonté. C'est juste que des fois, c'est plus difficile à l'entendre qu'être dans le silence. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Considérez les choses selon la volonté du Seigneur. Dieu veut nous révéler sa volonté. C'est simple, c'est pas compliqué. Alors c'est vrai qu'on a chacun notre couleur, chacun notre approche, notre histoire, nos casseroles et nos victoires, mais on entend tous Dieu. On entend tous Dieu, quelles que soient les circonstances ou les situations de vie, Dieu parle, et ça c'est quelque chose qui est important, Dieu parle. L'écouter, et secret numéro un, Dieu veut nous révéler sa volonté. Il y a même mieux. Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pas mal comme programme. Il aurait pu dire « je fais ce que je veux et puis tu me suis ». Non. Si tu cherches Dieu, il fera ce que toi t'as envie. Ah, c'est sympa. Du coup, on peut le bloquer. Là, j'ai été en voyage aux États-Unis, puis il y a une dame qui me dit « t'aimerais vivre aux États-Unis ». Je dis « bah oui, oui, bah pourquoi pas ». Bon, je suis touriste aussi, hein. Je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais oui, pourquoi pas. Ah, bah Dieu, il est bloqué alors, parce que si t'en as envie, il va réaliser tes désirs. Mais vous voyez l'idée. Et je comprenais ce qu'elle voulait dire. C'est, ben oui, effectivement, il faut que je sois très attentif à mes désirs parce que Dieu veut y répondre. Donc, il faut être très attentif. Et des fois, quand on me pose la question « qu'est-ce que tu veux ?», c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Quand Jésus demande à l'aveugle « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?», c'est évident. Pourquoi tu lui demandes ? Mais c'est pas... Non, mais il répond. Réponds à la question « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Parce que les désirs s'accordent. Et puis, dans ce cours, en écoutant Bruno, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que le Seigneur place en nous une certaine insatisfaction. C'est-à-dire que Et c'est ce que j'ai vécu récemment, parce que j'étais en cheminement par rapport à mon avenir. C'est comme une balance. On pèse des deux côtés. Et à la base, on est dans une situation, on se dit, ça pèse bien de mon côté, je me verrai pas partir ailleurs. Mais petit à petit, Dieu nous travaille et hop, on se dit, ben, la balance va de l'autre côté. Et finalement, je veux, à tel point que ben, l'autre côté me m'attire plus. Je suis même insatisfait. C'est pas du côté négatif. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a apporté jusqu'à présent. Mais hop, en pesant les deux, finalement, je préfère la suite. Voilà. Ça veut pas dire que si je reste là où je suis, Dieu me bénira pas. Mais finalement, je préfère la suite. Même si je sais pas ce que c'est, ou même si je sais ce que c'est, il y a une insatisfaction qui est bonne que Dieu place en nous. Ah, finalement, là où je m'éclatais, j'en prends toujours du plaisir, mais je sens que, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Dans la situation que tu voulais pas quitter à la base, finalement, tu te dis, ben, je me verrai pas finalement y rester. Voilà. C'est un petit peu ça qui se passe. Mais ça prend le temps. C'est vraiment Dieu qui nous travaille, parce que c'est aussi lié à notre désir. Il y a ce passage où Jésus lave les pieds de Pierre et lui dit « Ce que je fais, tu le comprends pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Mais maintenant, tu le comprends pas. » Et c'est vraiment ça qui se passe, parce qu'il lui parle aussi de son avenir. Je parlais avec un aumônier militaire qui était dans la Légion étrangère. Et c'était passionnant de parler avec lui. Et il me disait par rapport à ça, et c'est une image que je garde et que j'emploie maintenant, c'est quand le matin tu te prépares avant d'aller au travail, avant de faire ce que tu as à faire, tu te vois dans la glace. Et l'image, c'est ça. C'est le matin quand tu te prépares, tu te regardes devant la glace. Et qui tu vois? Normalement toi. Et ce reflet que tu vois, est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est tranquille? Parce que si il n'est pas heureux, il y a un problème. Parce que à la fin de la journée, ce qui compte, c'est ça. T'es pas en paix, si le reflet que t'as ne te convient pas, tu vis pas pour les autres. C'est important ça. Et c'est une façon de dire, ben, Dieu est attentif à tes désirs. Faut que tu puisses t'y retrouver. Dans les choix que tu fais, tu les fais pour toi. Quand tu te regardes dans la glace le matin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es en paix avec la personne que tu vois? Ou est-ce que tu lui fais la guerre? Fais attention de vraiment prendre soin de cette personne. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux croire que Dieu t'aime? Et comment tu pourras aimer les autres? Alors, dans le C, dans la deuxième partie, il est spécifié qu'il peut y avoir deux types d'appels, un appel spécifique et un appel général. Matthieu 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est l'appel général. Que Dieu te parle ou pas, c'est valable. Ça vaut pour tout le monde et tout le temps. Ça, c'est quelque chose d'important. Une fois, c'était, je crois, à la veille d'un nouvel an, il y a quelqu'un qui ouvre sa Bible au hasard, comme ça, et qui me dit, ce passage, il est pour moi. Je lui dis, tu sais quoi, il est aussi pour moi. Ah bon? Bah oui, parce que même si tu l'ouvres au hasard, c'est vrai pour moi. Même si tu ouvres pas ta Bible, ce sera toujours vrai pour moi et pour toi. J'enlève pas le côté prophétique, où des fois, tu nous parles spécifiquement, mais il y a l'appel général. C'est vrai pour toi et pour moi d'aller faire des disciples. Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est la volonté de Dieu dans la vie. Ça, on peut pas prier pour demander si on peut haïr son frère. Ça marche pas comme ça. Ça, on le sait, il y a l'appel général. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, un appel plus précis dans nos vies, dans lequel vont s'inscrire les deux choses. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Hein? Les sages, les vaillants, tout ce que vous voulez, ben, tout dépend pour eux des circonstances. Les gens agissent dans notre monde en fonction des circonstances uniquement. Voilà. Si une porte s'ouvre, j'y vais. Si elle se ferme, c'est que c'est pas bon. Dieu nous dit non. Les circonstances, effectivement, tu dois pas les oublier. Elles sont là. On n'est pas dans le déni. Mais elle ne détermine pas la suite. Si une porte ferme, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'ouvrir plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas persévérer. Donc ça, c'est intéressant. Et pour ça, je pense qu'il y a une direction précise à prendre. Et Dieu nous parle des fois de façon plus spécifique dans nos appels. À l'église, à Marguerite, on a fait une formation à la prophétie. Et c'est vrai qu'une des choses qui sortait, c'était le plus dur, c'est pas d'entendre Dieu. Hein. C'est après de prendre en compte ce qu'il dit. Dieu parle, ok, alors, l'écouter, c'est pas le plus difficile. C'est de se dire, ok, tu m'as dit ça, maintenant, ben voilà, je suis obligé de le prendre en compte. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. En tout cas, on voit dans la dernière sous-partie de cette deuxième grande partie qu'il y a un indice de la volonté de Dieu. Alors, on peut se dire, bon, là, c'est un petit peu glauque. De Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mince. Oh, ben, je veux pas, alors. Je crois que ce que dit Paul à Timothée ici, c'est tout simplement, d'une certaine façon, tu vas à contre-courant. On ne parle pas forcément de violence, on ne parle pas forcément de comme il s'est passé à Philippe. C'est pas le propos. Paul ne veut pas décourager Timothée, lui dit juste, le fait d'avancer avec Dieu, ben, y aura des oppositions, parce que les gens, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens en tout cas, ne marchent pas comme Dieu voudrait qu'ils marchent. C'est pour ça qu'en Jean 16, 33, Jésus dit que oui, il y aura des tribulations dans ce monde, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et on avait vu sur les cours sur l'apôtre Jean que le vainqueur dans la Bible, c'est celui qui, malgré les circonstances, tient ferme. Lui, il a vaincu le monde. Hein? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Bah oui, malgré les circonstances, vous croyez toujours en Christ, mort, ressuscité, vous croyez qu'il est avec vous. Ok, vous avez vaincu le monde. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, premier point, c'est important et capital de savoir là où Dieu nous appelle. Parce que ça nous donne cette conviction et cette force. Si je sais que Dieu m'appelle là, ça va aller. Si je ne suis pas sûr, effectivement, je vais me poser des tas de questions. Est-ce que c'est légitime ou pas ? Est-ce que c'est utile, en fait ? Secret numéro 2, Philippiens 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, deuxième secret de la joie de Paul, il arrivait à se réjouir pour les autres. Il se tournait vers les autres. Il se décentrait de sa vie pour se tourner vers les autres. Et là, il y trouvait des sujets de joie et de reconnaissance. C'est clairement dit. C'est clairement dit. Je suis joyeux parce qu'il se passe ça dans vos vies. Et ça me rend joyeux. C'est quelque chose d'important. Se décentrer. Paul passe du temps dans ça. Hein, il pense pas qu'à son ministère, mais souvent il pense aux églises quand il leur écrit. Et il leur dit, je me réjouis que vous viviez ceci et cela. C'est bien, c'est super. Et moi, ça réjouit mon cœur. C'est pour ça que c'est important de rester ensemble, de se donner des nouvelles avec les personnes qu'on voit grandir, évoluer. On se dit, voilà, toi, il t'arrive ça, c'est génial, je suis content. Ça réjouit mon cœur. C'est super. C'est super. Quand Paul écrit aux Éphésiens, en Éphésiens 4, à partir du verset 13, donc il parle des ministères, pour un accomplissement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Je lis ça parce que le propre d'un enfant, c'est de chercher son propre intérêt. Un bébé, il va pas te demander si tu as mal dormi, si tu t'es levé dans la nuit, il crie s'il a faim. Voilà. Il va pas débattre avec toi. Et il lâchera pas. Voilà. L'adulte est adulte parce que lui va au-delà de lui-même pour prendre soin des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il va au-delà de son propre besoin. C'est ce qu'il dit, hein, Paul. Hein. En fait, on est adulte, on est mature parce que maintenant, on se tourne vers les autres. Mais la contrepartie, c'est qu'on est joyeux. Donc l'enfant, quelque part, est capricieux et pour tomber dans une tristesse parce que justement, il se tourne vers lui-même et il se frustre. L'adulte prend soin de l'enfant et c'est ça qui est intéressant. 3 Jean 1, verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. On repense à Paul en prison. S'il pense à lui, à mon avis, il pleure. Hein. On se dit, voilà, tout ce qui s'est passé. Mais je sais qu'il se passe des choses. Cette femme a été délivrée. On a vu des miracles à Philippe. Des choses extraordinaires. Il pensait aux prisonniers autour d'eux. Il pensait à plein de choses. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà, c'est ça, plus grande joie. Ça, c'est important. Éphésiens 4, versets 13 et 14, hein, je l'ai lu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Hein. Et il dit des enfants qui vont à droite, à gauche et qui sont un peu ballottés. Non, vous êtes des adultes et donc vous cherchez l'intérêt des autres. Il y a quelques exemples dans la Bible où on voit des personnages bibliques qui justement se ressentent sur eux-mêmes et à partir de ce moment-là, on voit qu'ils sont tristes. On pourra en citer quelques-uns. Élie, je prends Jonas. On va aller vers Élie aussi, évidemment, c'est aussi une bonne réponse. Jonas. Jonas 3, verset 10, au chapitre 4, jusqu'au verset 3. Je lis. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Il est à Ninive, hein. Il prêche à Ninive. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Non mais, depuis quand tu fais du bien aux autres? Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Mince! Lent à la colère et riche en bonté. Mince, et tu te repens du mal. Quelle horreur. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Quelle prédication! Et d'ailleurs, vous savez que pour les théologiens, Jonas est probablement l'un des meilleurs prédicateurs des Écritures, parce qu'il y a Ninive qui se convertit quand même. Il y va, et en plus, il ne dit pas à Ninive qu'il y a une espérance, il dit juste, vous êtes fichu, Dieu va vous juger. Et il part. Et il ne le fait pas de bon cœur. Et tout le monde se convertit. Bravo! Bravo Jonas. Mais Jonas, on le voit dans ce passage, il regarde à lui-même. Il ne regarde pas l'intérêt des autres, ni l'intérêt de Dieu. Il dit, voilà, prends-moi la vie, parce que moi, je suis embêté par ça. Je ne veux pas que tu agisses. C'est, comment dire, il se fait son propre juge, c'est lui qui commande quelque part. Non, je ne veux pas regarder aux besoins des autres, c'est moi. Et jusqu'à préférer la mort. Et ça, c'est une des caractéristiques peut-être de la dépression, c'est qu'il n'y a plus de logique, on ne peut plus argumenter normalement. La dépression fait que ça ne marche plus comme ça. Il faut comprendre Jonas dans son raisonnement. C'est pour ça que la façon dont Dieu va lui parler va être bien. Pourquoi tu t'irrites? Hein, il ne va pas le condamner, il ne va pas l'aborder, juste, et en fait pas du tout en le condamnant. Il va avoir une approche tout à fait édifiante. Un autre exemple, Élie. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Acab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. « Je sauve ma vie, hein. Je me sente sur moi. Allez, maintenant, c'est de moi qu'il s'agit. » Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. En plus, voilà, il est seul, hein. Tu restes là. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il fait comme Jonas, hein. Tu me reprends parce que je ne veux pas. Tout le peuple est avec lui dans ce contexte. Dieu a répondu « Le feu est tombé du ciel » devant tout le monde. Wow, franchement, c'est pas mal. C'est un bon début. C'est pas mal. Et il suffit d'une petite note qui lui dit « ça va pas aller pour toi » et ça y est, il veut sauver sa vie. Et à partir de ce moment-là, où il se tourne vers lui-même, il rentre dans une dépression. Il s'est montré comme le prophète de Dieu. Dieu a répondu, le peuple était avec lui. Et d'un coup, il bascule « je suis pas meilleur que mes pères ». C'est fou. Mais non, je ne peux pas assurer comme eux. Je ne suis pas meilleur qu'eux, donc j'arrête. Élie cherchait à être validé dans sa propre approbation. Jacques 1, 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant plus un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. » Si tu aimes ton prochain, tu seras heureux dans ton activité. Encore faut-il se tourner vers les autres. Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, tournez-vous vers les autres, servez-les, aimez-les et réjouissez-vous de ce que vous faites, parce que là, vous y trouverez une joie et du plaisir. Et c'est d'autant plus vrai car, et je lis en Actes 20, le verset 35, « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Au-delà de tout ça, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc voici pourquoi Paul était joyeux. Les deux premiers points, il avait la certitude d'accomplir l'appel de Dieu pour sa vie. Et le deuxième secret, c'est qu'il ne se focalisait pas sur lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il s'oubliait, on est d'accord, hein, mais qu'il regardait aux autres. Et en regardant les autres, il se disait, ben là c'est chouette, il y a vraiment des sujets de joie.